Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero au micro pour cette édition d'Escale. Mon corps, ma vie, mon monde, un cri de ralliement pour les adolescents. L'UNFPA, l'Agence des Nations Unies chargée de la santé et des droits sexuels et reproductifs, vient de lancer une nouvelle stratégie qui favorise le leadership des adolescents informés et leur rôle en tant qu'agent moteur du développement durable. Tour d'horizon de cette nouvelle stratégie avec Satvika Chalasani. Elle est spécialiste des adolescents et des jeunes au sein de l'UNFPA et œuvre notamment en faveur de l'élimination du mariage des enfants.
En fait, la sexualité et la reproduction émergent pendant l'adolescence, ça veut dire entre l'âge de 10 et 19 ans. Il est donc essentiel que nous adressions à cette population de manière compréhensive et assez précocement. Et pour ça, nous avons sorti cette stratégie « My body, my life, my world », « Mon corps, ma vie, mon monde ». Il y a trois domaines dans cette stratégie. Sous la composante « Mon corps », c'est pour s'assurer l'accès aux services et à l'information sur la santé sexuelle et reproductive intégrée pour tous les adolescents et les jeunes. Sous la composante « Ma vie », nous parlons des déterminants de la santé et du bien-être des adolescents et jeunes, y compris le capital humain pour défendre leurs droits essentiels à l'éducation et l'emploi, etc. Et sous la composante « Mon monde », on parle vraiment du leadership des adolescents et les jeunes et leur droit de participer au développement durable, aux actions humanitaires et aussi au développement pays.
Alors, quels sont les points principaux de cette campagne?
En fait, plutôt que campagne, c'est une stratégie pour notre organisation. Et le but était vraiment de faire en sorte que la santé et les droits en matière de sexualité et de reproduction des adolescents et jeunes soient considérés comme essentiels dans le développement personnel des jeunes et leur société, et bien sûr soutenus par les investissements nécessaires. La stratégie demande au gouvernement, aux partenaires, à la société civile de garantir l'accès aux informations et services de bonne qualité qui répondent vraiment aux besoins spécifiques des jeunes.
Par rapport à cette stratégie, les informations que vous avancez sont quand même sensibles culturellement.
Oui.
Alors, quelle est l'approche que prône l'UNFPA par rapport justement à la sexualité et à la santé reproductive, des sujets qui sont très souvent tabous?
C'est vrai que ce sont des sujets tabous et on essaie toujours d'avoir une approche assez sensible au contexte spécifique où on travaille et la culture. On parle des droits des adolescents et des jeunes, mais on comprend bien que ces jeunes vivent dans une société avec leurs parents, leur famille, et il faut respecter en fait les règles et les traditions et les normes des communautés en travaillant avec des jeunes. Les jeunes comprennent très bien et ils sont d'accord pour travailler avec nous dans une manière vraiment adaptée pour leur contexte.
Par exemple, si l'on pense aux filles, très souvent, le fait même d'évoquer le corps d'une jeune fille peut être mal vu, mal considéré.
Oui.
Alors, comment revendiquer ses droits? Comment informer les filles? Comment, dans une société qui est fermée par rapport à ce partage d'informations, comment pousser pour justement qu'on sensibilise?
Oui, en fait, c'est surprenant que dans plusieurs communautés où nous travaillons avec des partenaires, les gens sont assez ouverts aux questions de l'éducation des filles, de la santé des enfants, la santé maternelle. Alors, dans certains contextes, on parle surtout de l'éducation et la santé maternelle et pas nécessairement des droits de filles ou les corps des filles. Et ça dépend vraiment de la région où on travaille. Il y a certains contextes où nous ne parlons pas de l'autonomisation des filles. On parle vraiment des filles dans leur contexte pour que les filles puissent soutenir leur famille et leurs enfants.
Alors, quelle est la situation des adolescents aujourd'hui?
Les adolescents et les jeunes aujourd'hui représentent un quart de la population mondiale, presque 2 milliards de personnes. Et cette génération est plus connectée que toute autre génération de l'histoire de l'humanité en termes de technologie, des médias et d'Internet. 70% entre eux sont en ligne. Mais on sait très bien que la consommation des médias n'est pas la même chose que participer dans l'économie numérique. Et surtout pour les filles ou les personnes handicapées, on voit qu'ils sont moins susceptibles que toutes les autres cohortes à utiliser la technologie ou à développer des compétences numériques. On voit aussi que cette nouvelle génération, dans son ensemble, est la plus éduquée et la plus en santé. Pourtant, 200 millions d'adolescents entre les âges de 12 et 17 ans ne sont pas à l'école secondaire et beaucoup trop de jeunes réfugiés se voient toujours refuser l'accès à une éducation de qualité. Je peux aussi dire qu'en termes de santé sexuelle reproductive, depuis 30 ans, l'âge moyen au premier contact sexuel, le premier mariage et la première naissance ont tous augmenté en Afrique subsaharienne, ce qui est bien. Mais à l'inverse, en Amérique latine et dans les Caraïbes, le moment de la première naissance n'a pas changé de manière significative et l'âge régional moyen à la première expérience sexuelle a même diminué. On peut parler aussi des jeunes d'Afrique francophone qui font face aux grands défis dans leur vie, surtout les filles. Les inscriptions et l'achèvement des études secondaires sont beaucoup plus faibles dans cette région. Et les filles, par exemple, font face aux pratiques comme le mariage précoce, la mutilation génitale féminine, et elles ont même un taux très élevé de la mortalité maternelle.
C'est des choses qui sont liées, mutilation génitale féminine, mariage précoce et mortalité maternelle.
Tout à fait. On voit que l'inégalité entre les genres et la violation des droits de filles et des femmes en termes d'éducation, santé, etc., sont tous liés à la vie des filles et dans les pratiques comme le mariage précoce. Il y a des explications structurelles.
Vous parlez d'explications structurelles. Justement, à quoi attribuez-vous le fait qu'il y ait des mariages précoces, des coutumes de mutilation génitale féminine? Souvent, ce sont des traditions ou des réponses des parents et des familles ou de la société pour pourvoir pour ces jeunes filles.
Oui, en fait, il y a plusieurs explications. Il y a des explications communes entre les régions, mais il y a aussi des explications et des raisons différentes. Le mariage précoce, on voit qu'il y a des raisons économiques. Là où l'éducation n'est pas de bonne qualité, on voit que les taux sont élevés, par exemple. Mais il y a aussi les inquiétudes des parents et qui veulent vraiment sauvegarder, protéger leur fille. Et le mariage est vraiment vu comme une institution pour protéger les filles. Mais on sait très bien qu'en fait, le mariage précoce pose des dangers pour la fille en termes d'éducation et la mortalité maternelle, etc.
Que fait l'UNFPA dans ces sociétés et par rapport à ces traditions et ces pratiques?
On travaille sur plusieurs niveaux. On travaille bien sûr avec les parents et les familles pour qu'ils voient pas seulement les risques et les dangers de ce type de tradition, mais aussi les bénéfices d'investir dans les filles. Que l'éducation des filles, y compris l'éducation compréhensive sur la sexualité des filles, est vraiment une stratégie long terme pour le développement des communautés et leur société, mais aussi basée sur les preuves. On a vu dans les programmes que travailler avec les filles, c'est très important pour qu'elles puissent s'exprimer dans la vie quotidienne, pour qu'elles puissent dire non au mariage précoce ou négocier avec leurs parents et pour continuer leur éducation, par exemple.
Cette stratégie souligne le fait qu'il faut inclure les adolescents dans les prises de décision et dans le développement des politiques pour qu'ils puissent participer au développement durable. Pourquoi est-il important justement de les inclure?
Dans les décennies qu'on a travaillé avec des jeunes, on a vu que quand il n'y a pas de jeunes dans les discussions autour des politiques et des décisions programmatiques, on voit que les programmes, par exemple, ne sont pas assez intéressants, les contenus ne sont pas liés à la vie des jeunes, et on voit aussi que les priorités sont différentes en termes d'investissement. Il y a toujours d'autres choses qui sont plus importantes, et les investissements dans les jeunes, historiquement, sauf en termes d'éducation, mais dans d'autres secteurs, les niveaux d'investissement étaient assez bas, en fait, par rapport à l'éducation ou à la santé. Mais maintenant, on voit qu'avoir des jeunes dans ces discussions, on peut avoir des programmes et des politiques qui prennent en compte vraiment leurs besoins, qui sont en train d'évoluer avec le contexte aussi, avec l'émergence des médias et d'Internet. Les vies de jeunes ont changé et leurs besoins pour l'information sexuelle et reproductive, par exemple, ont changé. En termes de livrer ces informations, il faut qu'on change nos approches et les jeunes sont très bien placés pour nous dire ce qui marche pour eux.
Vous parlez d'informations sur la reproduction et la sexualité et vous parlez des nouveaux médias, les nouvelles technologies, l'Internet, les médias sociaux. Il y a quand même une exposition à beaucoup plus d'informations sur la sexualité et pas toujours axée sur le relationnel.
Tout à fait. Quand on parle de l'éducation compréhensive sur la sexualité, on parle pas seulement de la reproduction ou du corps des jeunes. On parle vraiment des relations respectueuses qui donnent vraiment le pouvoir aux jeunes de décider sur leur corps dans une manière informée, bien informée sur les informations basées sur les preuves. Parce qu'en fait, l'Internet, c'est très bien pour livrer les informations, mais tout ce qu'on voit sur l'Internet n'est pas vrai. Il y a beaucoup de, comment dire, misinformation. Et c'est pour ça que notre travail est encore très important, même avec l'émergence des nouveaux plateformes. En fait, je dirais que notre travail est encore plus important maintenant.
On voit, par exemple, par rapport aux jeunes hommes, on voit qu'ils ont beaucoup plus accès, par exemple, à des clips et des images pornographiques et qui peuvent, en fait, informer leur façon de voir la sexualité et les relations.
Oui, tout à fait. Et c'est vraiment une inquiétude aussi des parents et qu'on entend tout le temps dans les communautés, dans les villages, mais aussi dans les grandes villes. Et c'est pour ça, en fait, que c'est très important de donner les informations correctes et sensibles aux questions de genre et le pouvoir entre les genres et entre les gens de différents âges et les classes, etc. Et c'est vraiment pour aussi donner aux jeunes hommes une manière d'interagir avec les femmes et la société dans une manière constructive pour eux et à leur société aussi.
Vous parlez donc de l'importance d'impliquer les jeunes et notamment qu'ils aident à la création ou au développement de programmes plus adaptés. Quel est le rôle idéal pour les jeunes selon l'UNFPA?
En fait, on travaille avec des organisations qui sont créées par les jeunes, pour les jeunes, et nous trouvons que avoir ce type d'organisation dans nos réseaux de partenaires, c'est toujours important. Bien sûr qu'ils ont besoin d'augmenter leur capacité à travailler, mais ils sont toujours très contents de travailler avec nous et nous avec eux pour apprendre vraiment la réalité de leur vie et de leur communauté. Alors ça, c'est vraiment notre stratégie principale pour engager les jeunes, mais bien sûr que nous avons d'autres stratégies aussi, même au niveau régional, global, il y a des réseaux de jeunes et nous voulons vraiment écouter les jeunes au niveau régional, mais au niveau de communauté, par exemple, quand ils viennent ou elles viennent pour recevoir un service dans un hôpital, pour vraiment écouter si c'était un service de bonne qualité, s'ils ont été bien traités, etc.
Les jeunes, ce sont aussi des agents de communication pour la société aussi, par rapport à ces sujets de sexualité, de reproduction, ces idées de développement.
Tout à fait, surtout parce qu'ils connaissent vraiment leur communauté. En fait, ils sont très bien placés pour parler même avec les parents et les leaders religieux, par exemple, dans une manière adaptée pour leur vie et leur communauté.
Et c'est avec le cri de ralliement de Sadvika Chalasani que se referme cette édition d'Escale. Escale, un magazine hebdomadaire de Nu Info que vous pouvez retrouver sur notre site internet et nos comptes Facebook, Twitter et SoundCloud, présenté cette semaine par Christina Silvero. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence.